Elle était si pesante malgré sa maigreur. Elle sait qu'un corps mort est plus chargé, plus dense, que celui d'un vivant. En relevant monsieur, elle s'est rappelée cette fixité lourde, cette masse triste. Tout du long, pour l'encourager, pour l'accompagner dans l'effort qu'elle lui demandait, elle lui a murmuré des mots gentils, doux, comme des caresses. Comme on inciterait un enfant boudeur, un animal têtu, à faire ce qu'on attend de lui, mais sans le brusquer, sans le braquer. Elle l'a déplié, jusqu'à ce que son buste retrouve sa verticalité, que sa tête se remette sur ses épaules. Elle a placé ses mains, ce qu'il en reste, sur ses genoux, ce qu'il en reste aussi. Tout du long, elle a chantonné, sans s'en apercevoir, comme on bercerait un tout petit pour l'apaiser, pour meubler le long silence aussi, remplir ce vide impitoyable, ce rien qu'elle sent planer constamment autour d'eux. Le maintenir à l'écart par le pouvoir magique d'un chant marmonné, un chant de gorge, lèvres closes, langue plaquée au palais. Un chant sans mots, presque sans mélodie, qui dit tout l'effort, toute la bonne volonté qu'il faut aller chercher au fond de soi, au fond de lui, pour continuer encore un peu. Elle n'ose pas parler d'espoir, le mot est trop fort. Pourtant, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Elle en a de l'espoir. Il faut lutter encore. Voilà. Il faut tenir. Il n'en peut plus. C'est maintenant que tout devrait s'arrêter. C'est le moment. Alexandrine est loin, cela ne se reproduira pas de sitôt. La bonne est bien jeune et trop sensible, mais il veut croire qu'elle comprend malgré tout. Elle doit bien se rendre compte que cela ne peut pas continuer, que cela n'aurait même pas dû avoir lieu. Quand il était sorti de la tranchée avec les autres, sous les cris du capitaine qui les encourageait à courir malgré les balles, cela aurait déjà pu être la fin. Il avait traversé indemne une bonne partie du No Man's Land. Puis, quand il avait buté sur un mort et qu'il avait plongé tête la première dans ce trou, il s'était retrouvé englué dans la boue liquide, entouré de cadavres flottants et de nuées de mouches. Là aussi, il aurait dû y rester. Il avait refait surface. De la terre plein les oreilles, la bouche, les yeux. Un trou où disparaître. Autour, les hurlements des hommes, la pluie des mortiers, les balles qui sifflaient, les soldats qui tombaient. Du fond du cratère, Blaise pouvait lire le paysage sans le voir. De part et d'autre du trou dans lequel il se terrait, chaque tir soulevait une fontaine de glaise. Elle ensevelissait de nouveaux corps, aussitôt exhumés par la chute de l'obus suivant. Dans le silence du trou, les odeurs mêlées du sang, de la chair pourrie, de la fumée et de la poudre. Il lui arrive encore de les sentir. Il payerait cher pour que cessent ses réminiscences. La nuit, quand il se réveille en tremblant, de la boue plein la bouche, il jurerait parfois que la main d'un défunt frôle sa joue. Il se souvient de la soif irrépressible qu'il avait torturée, comment il avait fouillé les corps qui surnageaient pour trouver une gourde, en boire les dernières gouttes. Comment les cadavres l'avaient maintenu en vie. Il avait passé 3 jours et 3 nuits dans ce purgatoire où s'obstinaient les âmes de ceux qui l'entouraient. Il les avait vus errer, chercher la porte de sortie, mais personne ne les réclamait. Il ne les avait pas rejointes. Pourquoi ? Il l'ignore. Il le déplore. Quand les combats avaient cessé, le silence s'était fait autour de lui et de nouveau, il avait attendu la mort qui n'était pas venue. Au bout de 3 jours, un nouvel assaut avait été donné. Il avait trouvé la force d'appeler. On l'avait tiré de là, dans un horrible bruit de succion. Le trou aurait voulu le garder. Il regrettait de le voir partir vivant. Blaise était si faible qu'il avait été évacué dans un hôpital de fortune. Une ferme ou une ancienne auberge à quelques pas du front, où l'on avait entassé pêle-mêle les soldats blessés, français comme prussiens. Ils râlaient tous, à même le sol. Il n'y a plus de langue, plus